Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette émission peut contenir des infos.
Absolument.
Avec le collègue François Côté qui va
Bonjour.
Bien.
Bonjour.
Hein, ça va?
Oui, ça va. Et toi?
Oui, ça va.
Bon.
Une grosse émission aujourd'hui.
Très grosse.
Oui, on va, entre autres choses, parler de l'avenir des contenus culturels numériques.
Oui, au Canada.
Au Canada.
Ça va être super intéressant. Et aussi, parce que c'est la saison, la sécurité nautique.
Alors, on aura ça, entre autres entrevues, un petit peu plus tard dans l'émission. Restez avec nous autres, branchés sur votre radio membre de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Veux-tu commencer avec ton premier sujet?
Je pourrais très bien commencer avec mon sujet. Et mettons que tu manques d'essence, là.
Oui.
OK, ça arrive, on manque d'essence.
Ça m'est jamais arrivé. Mais mettons que j'ai étiré un petit peu, j'ai poussé un petit peu ma loque. Tu sais, quand tu sens que l'auto, là, est comme...
T'es ces fumes.
C'est à peu près ça. Ça m'est arrivé une fois.
Ouais, mais moi aussi. Mais j'ai jamais manqué vraiment d'essence.
La panne sèche.
Mais, penserais-tu à mettre du lait, toi, dans ton... Non?
Non. J'ai entendu parler qu'il y en avait qui mettaient de l'alcool.
Oui.
Ça, j'ai vu ça. J'ai vu une vidéo récemment dans YouTube où le gars, je pense qu'il mettait de la vodka ou un truc du genre.
Oui.
Mais ça fait cher un peu, leur manteau.
Ben oui. Mais ça va venir, mon cher, que vas probablement...
Du lait.
...mettre du lait dans ta voiture.
Eh ben, déjà dans les céréales, c'est pas pire, mais dans le char.
c'est effectivement. Il y a un partenariat entre des producteurs de lait du Michigan et une distillerie canadienne.
Ah oui.
Qui prévoit de produire 2,2 millions de gallons d'éthanol pour les voitures et les camions d'ici 2025. La Michigan Milk Producers Association, une coopérative de plus de 1000 producteurs laitiers qui possède deux usines de transformation dans l'État du Michigan, a créé une co-entreprise avec Dairy Distillery de Almont, en Ontario, pas tellement loin d'Ottawa.
OK.
Qui, elle, produit une vodka à base de lait qui est appelée Vodcow.
OK. Là, ça me dit quelque chose. Okay, parce que
la vodka.
Oui, je savais que... Parce que tu joues un peu sur les mots, en tout et moi, là. C'est pas vraiment du lait.
Ben non, c'est pas du lait. C'est qu'on prend une partie du lait. On va prendre une partie du lait pour finalement en faire de l'éthanol. C'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on va faire. L'entreprise prévoit à agrandir une installation de 30 000 pieds carrés dans le sud-ouest du Michigan afin de transformer un sous-produit appelé Perméa de lait.
OK.
OK. Et ça va être transformé en 2,2 millions de gallons d'éthanol par année. Quand même pas pire, là.
C'est quand même pas pire.
Qui va pouvoir être utilisé dans les voitures et les camions. En utilisant la technologie développée par Dairy Distillery, qui a commencé à transformer le Perméa de lait en vodka en 2018 et... en désinfectant pour les mains pendant la pandémie de COVID-19.
OK.
Quand même pas pire, c'est de la base de lait, là. Les producteurs laitiers du Michigan espèrent finalement créer un peu de valeur pour le lait transformé de leurs vaches qu'ils n'utiliseraient fort probablement pas.
Exactement.
Alors,
plutôt que de le domper dans les égouts,
exactement,
comme ça arrive de temps en temps.
Exactement. On va en faire quelque chose qui va servir à la population.
Je suis un peu partagé entre est-ce que je dois trouver ça positif dans le sens où on continue à entretenir le pattern du moteur à explosion, entre guillemets, tu comprends ce que je veux dire, et de l'autre côté, se servir de résidus de lait ou même des quotas de lait qu'on aurait en trop pour faire justement pour une production, pour une valorisation. Tu sais, je suis un peu partagé entre les deux.
Mais n'oublie pas que l'éthanol pollue moins.
Oui, bien sûr, par
exemple. La quantité d'éthanol qu'on va produire, mélangée à l'essence, peut compenser 14 500 tonnes de carbone par année.
Oh!
Alors,
OK.
Tu sais, oui, c'est ça, là, je veux dire, ça reste un moteur à essence, un moteur à combustion.
Oui.
Mais on va diminuer un peu ses émanations.
Ah, tu réponds à ma question.
C'est quand même pas si pire.
Quand même pas pire.
Ah, je te vois y venir. Le, le sous-produit du lait va être acheminé directement de l'usine de traitement du lait vers une usine d'éthanol où il sera fermenté à l'aide de la technologie de Dairy Distillery pour produire de l'éthanol. L'éthanol sera ensuite traité pour éliminer l'eau qui reste. Alors, quand même pas pire, 20-25, ça s'en vient.
Okay,
on va mettre du lait dans notre voiture.
Encore là, tu joues sur les mots.
Ben oui, c'est non, mais c'est ça pareil.
Ça ferait que ça
c'est
ferait
du perméa de lait.
C'est ça.
Ça fait que la base, c'est du lait. C'est on va mettre du lait dans notre char.
T'as raison.
Bon.
C'est vrai. De moteur à explosion, ou en fait, de moteur fonctionnant au lait, je vous amène vers une autre, toute autre motorisation, en l'occurrence, les véhicules électriques une compagnie certainement parmi les plus connues dans le domaine, Tesla.
Qu'est-ce qui se passe avec notre ami Elon?
Il y a un journal allemand qui a eu accès à des données qui lui ont été partagées et qui viennent mettre en lumière les, j'allais dire nombreuses, je pourrais dire les innombrables plaintes qu'il y a eu chez Tesla par rapport à la conduite autopilot.
Ah oui, la conduite autonome.
Entièrement autonome de ses véhicules. Ça a l'air que il voulait pas que ça sorte. Et c'est sorti.
Ils l'ont sorti trop vite, là.
Ben, alors, c'est une fuite de données qui a permis de mettre la main sur des informations où on rapporte, entre autres, plus de 2400 problèmes d'accélération automatique. Et, à l'inverse, au moins 1500 problèmes, non pas d'accélération, mais de freinage.
De freinage.
C'est arrivé, j'ai regardé hier, justement, après avoir sorti ça, j'ai regardé une vidéo dans YouTube où on voit, justement, des problèmes survenir avec des véhicules de Tesla qui, tout à coup, tu roules à 100 quelques kilomètres heure sur l'autoroute, puis bang, les freins embarquent.
Oui.
Avec une collision, évidemment, parce qu'il y a la voiture qui tue en arrière. Ça a l'air qu'il y aurait quelque chose comme 1000 accidents, là, assez, dans certains cas, assez graves qui sont survenus à cause de l'autopilot. Alors, c'est des plaintes qui ont été reçues sur une période d'à peu près 7 ans, entre 2015 et mars 2022. Et, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ça peut pas. Mais la preuve qu'il s'agirait bel et bien de plaintes réelles qui figurent dans ce dossier-là, c'est que à travers les informations qui ont fuité, il y a aussi les informations ou les renseignements personnels de 100 000 employés actuels et anciens qui confirment, en tout cas...
Les problèmes?
Ben, la véracité des informations. Parce que là, tu sais, tu matches, tu dis, lui, il a vraiment travaillé chez Tesla. Là, tu sais, tu fais le match puis tout ça. Alors, ça vient en quelque sorte confirmer ou étayer le fait que ces plaintes-là, c'est pas quelque chose de futile ou c'est pas quelque chose d'inventé qui est sorti. On relève entre autres de graves problèmes de sécurité ou même simplement de la fiabilité là, de fonctionnalité de pilote automatique des Tesla. Bref, ça marche, mais ça marche pas exactement parfaitement, là, comme on dit.
OK, mais c'est de la technologie, OK? C'est des capteurs qui transmettent l'information à un ordinateur, qui traite l'information et qui, fait bon. OK, mais c'est parce qu'à un moment donné, un capteur peut lâcher ou mal lire ou, tu sais, à un moment donné, là, ça...
C'est tout à fait possible. Ben, tu sais, on me dira que l'erreur est humaine et êtres humains pourraient commettre des impairs ou des erreurs de conduite.
Oui, absolument.
Ah, on envoie des fois des gens
qui... On envoie assez des accidents que...
C'est ça, tu sais. L'auto s'est emballé. Oui, l'auto s'est emballé. À place de le mettre sur reculon dans la fête du dépanneur...
As-tu pesé sur le gaz, peut-être?
Il l'a mis sur le drive puis il est parti par en avant avec la pédale de gaz. C'est des affaires qui arrivent, ça aussi. Mais quand on a une fonctionnalité comme celle-là, l'autopilot de Tesla, et qu'on active ça, on s'attend à ce que
ça fonctionne,
puis on n'accélère pas pour monter ça à 140 sur l'autoroute pour aller taper dans le derrière de l'autre qui est en avant.
C'est ça. Mais je pense que c'est pour ça que, Simon, les gens sont encore un peu craintifs.
Ah, moi, je suis très craintif.
Vis-à-vis cette technologie-là. Moi, je l'ai essayé, là. Dans la Tesla. Puis j'ai pas aimé ça parce que, j'avais pas de contrôle.
OK.
Je déteste ne pas avoir le contrôle de mon véhicule.
Toi puis moi, là, la conduite automobile, c'est quoi le fun là, de la conduite automobile?
C'est conduire.
C'est conduire. Tu sais, autrement, je veux dire, tu prends un taxi ou t'embarques dans un Uber ou un affaire de même.
C'est ça, exactement. Tu sais, quand on était jeune, on pouvait conduire 10 heures sans problème, sans arrêter, puis c'était pas un problème. Aujourd'hui, bon, on en fait un petit peu moins longtemps, là, tu sais, puis on arrête un petit peu plus souvent. Mais c'est ça, c'est juste ça qu'on devrait faire, c'est s'arrêter un petit peu plus souvent et on n'aurait jamais de problème sur la route.
Ouais.
On s'endormirait pas, là.
Entre autres choses, écoute, c'est quand même assez gros, là, ce qui est sorti, là. 100 gigs d'informations, tu pensais ça?
Ah oui.
23 000 documents et fichiers internes de l'entreprise qui aime pas beaucoup que ce soit ébruité.
Non, je suis sûr.
Sans doute, là. Plusieurs milliers de plaintes concernant l'aide avancée à la conduite, le pilote automatique ou encore carrément la conduite entièrement autonome, parce que c'est ça qu'il y a de particulier dans les Tesla.
Mm-hmm.
Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas au courant, c'est que t'as juste une petite aide, une petite assistance de base, oui. Là, on va dire, là, qui va t'aider, par exemple, pour les dépassements, les trucs du genre, regarder dans ton angle mort pour voir qu'il n'y a pas personne pour t'aider à faire, à te remettre dans ta voie des trucs du genre. Mais il y a le gros kit, là.
Oui.
Et c'est là, justement, que c'est plus problématique. C'est quand tu confies à la voiture, à l'intelligence artificielle qui est à bord de ce véhicule-là, tu confies ta vie à toute fin utile.
Ben c'est pas mal ça, oui.
t'aimes ça que ça fonctionne.
Ben honnêtement là, oui. J'aimerais bien ça, moi, que être certain qu'il y aura jamais un problème.
Ben exactement. Tesla a livré un peu plus de 2,5 millions de véhicules, incluant ce fameux pilote automatique. On comprend que 2000 quelques accidents qui arrivent ici et là ou incidents, ça peut avoir l'air anecdotique, mais quand t'es dans l'auto puis que ça t'arrive,
ça l'est pas.
C'est pas anecdotique.
Non.
Les plaintes émanent essentiellement des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Et il y a des conducteurs qui rapportent des collisions, des sorties de route. Il y a des banals accrochages, évidemment.
Oui.
Tu te ramasses une tôle froissée un peu. Mais il y en a d'autres qui ont, eux autres, ils l'ont eu solide, là.
Mais tu sais, une sortie de route, là.
Non, c'est pas drôle, là. T'arrives d'une courbe à un moment donné, puis la voiture se met à accélérer, puis
c'est
le décor, là.
Ouais. Non, tu l'aimes pas, celle-là.
Je trouve pas ça drôle. On va s'arrêter pour une courte pause. C'est la première de l'émission. Nous allons revenir dans un instant et nous vous parlerons de sécurité nautique.
Oui.
Sécurité nautique, restez avec nous autres.
Cette émission peut contenir des infos.
François, es-tu un amateur de nautisme?
Oui. Pas mal.
Toi, j'ai entendu dire que t'es un gars de bateau.
On est élevé sur un bateau.
Ah, OK.
On est élevé sur un bateau et mon père faisait partie de la garde côtière, des réserves de la garde côtière.
Ah!
Alors, oui, c'est ça, on allait souvent dépanner des bateaux, là, parce qu'ils se faisaient appeler. On allait dépanner des bateaux. C'est le fun. Moi, j'adorais ça.
Cool!
J'ai adoré cette expérience-là.
Ça fait que t'as le pied marin, comme on dit.
Un petit peu, oui.
La belle saison est à nos portes, même qu'on est presque les deux pieds
dedans. On est là.
On est là. Actuellement. Et il y a des gens à travers le pays, évidemment, qui vont faire du nautisme ou qui vont être peut-être tenté d'embarquer sur une embarcation, mais encore faut-il bien le faire.
Et il y a des règles à suivre.
Absolument. Et on a pensé en parler avec un monsieur qui fait de la sensibilisation en la matière. Il s'appelle Rock Anctil. Il est agent de développement de la sécurité nautique à Transport Canada et on l'a avec nous au bout du fil. Monsieur Anctil, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs. Merci de m'avoir invité avec vous aujourd'hui.
Ah, ça fait plaisir.
Oui,
cette circonstance, là, avec le bon temps qu'on connaît ces jours-ci. Monsieur Anctil, sautons à pieds joints, là, dans le feu de l'action, dans le vif du sujet. C'est quoi les principes de base en sécurité nautique qu'un plaisancier devrait connaître avant d'embarquer sur une embarcation? Et quand je parle d'embarcation, c'est sans égard à la grosseur, là, ou à la motorisation.
Ben, je suis content que vous posiez cette question-là parce qu'effectivement, c'est le début, c'est ce qui est important avant même de songer à aller sur l'eau. Et comme vous le précisez, comme vous le mentionnez, peu importe le type d'embarcation, que ce soit la planche à pagaie jusqu'au voilier ou encore une grosse embarcation à moteur, il y a des principes de base qui s'appliquent. Et le premier, je crois, là, c'est d'aller se former. Au Canada, on a un programme de preuve de compétences qui existe, là, que les gens habituellement vont appeler permis d'embarcation, permis de bateau, mais en réalité, c'est pas un permis, c'est la carte bateau qu'on peut faire la formation en ligne et l'examen qui suit. Et ça, c'est dans la mesure où on conduit un bateau à moteur, c'est à partir de 10 forces et plus, c'est obligatoire, mais on le recommande quand même à l'ensemble des gens qui vont sur l'eau parce que ça permet de se familiariser avec les concepts de navigation, de partage des voies navigables, des équipements obligatoires à bord et de comment bien se comporter sur l'eau. Si je résume rapidement, là, On parle ici, première chose, c'est le port de la veste de flottaison. Dans la réglementation, c'est pas stipulé qu'il faut absolument le porter, mais on le suggère fortement. Et pourquoi? Parce que ça sauve des vies. Puis la veste de flottaison, le vêtement de flottaison, il doit être bien adapté, il doit être ajusté à la personne qui le porte. Et de façon réglementaire, il doit en avoir un pour chaque personne qui est à bord d'une embarcation. Ensuite, il faut pas oublier que l'eau est froide au Canada, que ce soit autant dans l'ouest du pays que dans l'Atlantique ou encore, bien entendu, dans le nord. L'eau a tendance à toujours être froide au Canada. Donc, il faut se préparer à, si jamais on tombe à l'eau, il va y avoir un choc thermique et un choc hypothermique, excusez-moi. Ça, c'est une réaction automatique qui fait que notre corps va réagir et on va chercher à trouver de l'air, à hyperventiler. Si on porte notre veste de flottaison, ben on a beaucoup de chances là d'être capable de reprendre le contrôle et de s'assurer de reprendre la respiration. Quelqu'un qui porte pas sa veste, ben malheureusement, ça peut amener des complications et éventuellement amener ce qu'on ne souhaite jamais, là, mais amener à la mort.
Mm-hmm.
Ensuite, on parle de naviguer sobre. Donc, toujours faire attention, alcool et drogue. Il faut toujours se rappeler que sur l'eau, les effets sont multipliés. Donc, il y a des provinces que c'est formellement interdit. Au Québec, c'est toléré, mais encore là, c'est le même principe que lorsqu'on conduit une voiture, là, c'est 0.08. Et c'est ça. Faut toujours être prudent. Mieux vaut prendre une bière après l'excursion sur l'eau que pendant, même si c'est tentant, c'est le fun parce qu'il fait beau puis on est avec des amis ou la famille. Ensuite, ben c'est d'être prêt. Donc, vérifier que nos équipements à bord sont tous là. On peut trouver des références là, sur Internet, entre autres, en faisant une recherche Bureau de la sécurité nautique Transport Canada sur Internet. Et là, vous allez avoir une liste ou une version électronique du guide de la sécurité nautique où vous allez retrouver tous les équipements obligatoires à bord selon votre type d'embarcation, parce que ça change selon le type et la longueur de l'embarcation. Et vous assurez que vous avez tout à bord, parce que ces équipements-là sont pas là pour rien. C'est parce qu'il y a des situations où vous pouvez en avoir de besoin. Il faut toujours s'assurer que c'est à portée de main et en bon état. Donc, si ce soit un extincteur pour les incendies, ben vérifiez la date de péremption, vérifiez si il est bien rempli ou s'il y a besoin d'une vérification. Même chose pour tous vos équipements. Faites le tour à chaque début d'année, vérifiez que tout est en ordre et surtout assurez-vous de savoir où ils sont, parce que en cas d'accident, c'est pas le temps de réfléchir à savoir c'est où ça ou de chercher une clé pour débarrer pour avoir accès à un équipement. Donc, il faut que ce soit accessible et que ce soit toujours prêt. Également, c'est pas grand-chose, mais vérifiez donc les conditions météo.
Ouais.
Vérifiez les cartes marines du plan d'eau où vous prévoyez aller. Souvent, on pense que je connais le lac parce que c'est depuis que je suis tout petit que j'y vais. Mais selon les glaces l'hiver, selon les marées où on est, ben des fois il y a des roches qui bougent, des choses qui se déplacent. Donc les cartes marines, bien les plus à jour bien entendu, vont nous rappeler des fois où il y a de forts courants, où il y a des obstructions, où il y a des roches des fois qu'on voit pas mais qui sont près de la surface. Et préparer un plan de navigation et laisser l'information à quelqu'un sur terre. Donc vous pouvez dire à votre partenaire ou encore à quelqu'un de la famille ou un ami, ben bien, je m'en vais en bateau pour 2-3 heures, je peux voir revenir vers telle heure à peu près. Puis on s'en va dans telle direction. De cette façon, s'il arrive quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui est déjà au courant et qui peut démarrer des démarches si jamais vous revenez pas à l'heure. Mais bien entendu, lorsque vous revenez sur Terre, ben il faut appeler cette personne-là pour confirmer que vous êtes bien revenu.
Vous avez parlé des cartes marines, justement. Ça a évolué énormément là, depuis moi la dernière fois que j'en ai lu.
Oui.
Maintenant, on les a sur nos téléphones et on a la dernière version finalement tout le temps.
Ben faut aller la télécharger, oui. Là, mais oui, il y a moyen d'avoir toujours la dernière version à jour, effectivement. Puis beaucoup de personnes peuvent l'avoir sur leur téléphone et ceux qui utilisent des GPS également,
oui.
Il y a des cartes qui sont téléchargeables là, pour différents types de GPS aussi.
Monsieur Anctil, on a parlé des équipements un petit peu qu'il fallait avoir à bord, là, extincteurs, les trucs du genre. On a parlé un petit peu des principes de base, mais il y a une affaire, moi, qui m'épate un petit peu, c'est que les gens, des fois, vont louer un Airbnb, par exemple, puis il y a un kayak sur le bord du lac. Mm-hmm. Ils savent pas qui a déjà pris ça, ils savent pas si c'est bien bien entretenus, ils connaissent pas la condition un peu de cette embarcation-là. Comment on fait avant de partir là pour s'assurer que l'embarcation, l'espèce de pédalo, le kayak ou encore des fois même c'est des gros pontons qu'on va prendre, comment on fait pour s'assurer que c'est en bon état? Est-ce qu'il faut, je sais pas, passer un petit coup d'œil rapide? Est-ce que ça suffit ou...
Ben, habituellement, la personne, le locateur, là, la personne qui fait la location de son chalet ou de l'embarcation, normalement, se doit de donner l'information appropriée pour l'utilisation de l'embarcation. Okay. Et normalement, devrait donner aussi l'information sur le plan d'eau, où est-ce que les gens vont aller.
Ben oui.
C'est très important, puis à quelque part, la responsabilité est partagée dans le sens que les gens qui louent, ben eux aussi doivent s'assurer d'avoir l'information appropriée de façon à utiliser l'embarcation. Et si, pour X raisons, les gens ne sont pas à l'aise ou les gens, encore une fois, sentent qu'ils n'ont pas la compétence, ben soyez prudents et courez pas après le trouble, j'ai envie de dire. Mais encore là, c'est pas régi par nous, c'est pas régi... en fait, les locataires officiels, ceux qui font de la location d'embarcation et que c'est une entreprise, c'est effectivement régi par nous et ils se doivent de donner un cours de base, informer les clients de l'utilisation de l'embarcation, que ce soit une moto marine, ponton ou autre. Mais ceux qui font plus dans le Airbnb, comme vous parlez, ben là, c'est hors de notre champ de compétences. Puis normalement, selon la région, il y a des endroits, en tout cas, que c'est pas permis ou autre. Donc, c'est aux locataires, aux gens qui font la location de s'assurer que tout est conforme et en ordre.
En un mot comme en mille, quand on va pour embarquer dans un kayak qui est là sur le bord de la plage, par exemple, au chalet qu'on a loué, ouvrez l'œil et le bon là, pour voir s'il n'y a pas des trous à quelque part puis des affaires comme ça, là, je veux dire...
Effectivement, et faites donc un test juste sur le bord avant pour voir qu'il rentre pas d'eau.
Oui, bonne idée. Vous nous avez parlé un petit peu des risques tantôt qui étaient associés à la navigation de plaisance. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, puis surtout comment les éviter?
Déjà, de faire la formation là, pour la carte de compétences, les gens vont avoir beaucoup d'informations, sauf que souvent, on va faire cette formation-là qui est offerte en ligne. Les gens vont la faire l'hiver. Rendu au début de saison, la plupart des gens, on va avoir oublié. Donc, remettez-vous le nez dans des documents, revisitez le guide de la sécurité nautique. Encore une fois, je le rappelle, il est disponible sur le site web là, du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada. Vous pouvez le télécharger en version PDF. Et ça rappelle toujours l'information importante, les équipements nécessaires à bord. Et si les gens prévoient aller sur un plan d'eau qu'ils sont pas habitués, il existe des cours qui se donnent pour de navigation avancée et autres. Et je crois que c'est important de toujours aller plus loin, toujours partir à sa connaissance. Et c'est toujours d'être prudent, de se préparer d'avance plutôt que de réagir lorsqu'un accident arrive. Donc, on n'est jamais assez prudent, je crois, quand il est question d'aller sur l'eau.
C'est comme dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir.
Ah ben oui, absolument.
Absolument.
Ouais, parce que quand on est sur la terrasse de son beau-frère puis qu'on perd pied, on trouve que le plancher de bois peut arriver rapidement en pleine face, mais quand on a une petite bière de trop dans le nez là, sur une embarcation puis qu'on perd pied, ça peut être autrement plus tragique.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Donc c'est ça, faut être prudent.
Il est agent de développement à la sécurité nautique à Transport Canada. Il était là pour parler avec nous des règles à respecter, les règles de l'art.
Pour avoir une belle saison.
Pour avoir une belle saison. Monsieur Roch Antil, merci beaucoup, Monsieur Antil.
Je vous remercie beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente saison et surtout, amusez-vous bien sur l'eau en sécurité.
Peut contenir des infos.
Simon, la semaine dernière, tu nous parlais de la radio AM.
Absolument.
Que certains constructeurs de voitures ont décidé d'éliminer de leur offre.
Oui.
Ben, il y en a un qui a décidé de faire le contraire. C'est-à-dire, oui, il avait décidé qu'elle n'ait plus l'offrir à partir de 2024, mais il a changé son fusil d'épaule. Je ne sais pas si c'est la législation qui va faire que il s'est peut-être dit, ben, ouais, dans le fond, pourquoi pas. C'est Ford.
Ah, Ford, ben oui.
Ford a décidé de reculer. Et finalement, ne va pas éliminer la radio AM des véhicules à partir de 2024. Ils vont la garder.
Il y a un vieux dicton qui dit qu'il n'y a rien que les fous qui changent pas d'idée.
Exactement.
Et il faut croire que leur idée était pas arrêtée tant que ça.
Ben, probablement pas. Il y a probablement eu aussi de la pression de certains sénateurs qui ont dit, ben, sais-tu quoi, ça serait peut-être une bonne idée que tu gardes.
Oui, puis en même temps, les gens, par exemple, on va dire dans l'Ouest américain, qui ont des camionnettes de Ford, mettons un Ford F-150
exact.
Lightning,
oui.
Le gars, lui, il a accès à quoi dans son patelin? Mettons la radio AM, utile, c'est à peu près juste ça. Maintenant,
oui.
Il y a peut-être une antenne FM, mais ça fait pas son affaire, on va savoir.
C'est ça.
Ça se peut, ça. Puis là, ben, t'as coup, non, t'auras plus de radio AM. Dans... Moi, personnellement, ça me mettrait un petit peu
En
beau fusil. Ouais.
Ben oui, effectivement. Je sais que il y en a qui ont dit, ben, vous avez juste à le streamer.
Ben, non,
mais
oui.
C'est parce que là, la radio AM, ça coûte rien.
Exactement.
Si vous streamez, ça vous coûte des données.
C'est ça.
Ben,
c'est ça la beauté de la radio.
Ben, c'est ça. Fait que là, ça défait tout un peu la purpose de la radio, dans le fond. Là.
Voilà. Merci beaucoup pour ce complément d'information. C'est intéressant.
Hey, ça me fait excessivement plaisir, mon cher ami Simon.
Hâte de voir s'il y en a d'autres qui vont suivre après ça.
J'ai comme l'impression que oui.
On s'arrête pour une courte pause et puis dans un tout petit instant, nous allons parler de l'avenir des produits culturels numériques au Canada. Est-ce qu'on a de la place? Est-ce qu'on a notre place,
oui.
Les Canadiens, dans l'univers numérique? On vous en parle dans un moment.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Il y a quelques semaines, s'est déroulé du côté de Toronto un forum particulièrement intéressant pour les gens qui, comme François et moi,
oui.
Et vous qui nous écoutez à la maison, qui consommons des produits culturels et artistiques sur Internet, dans l'univers numérique. Un forum sur l'avenir des contenus culturels numériques au Canada. C'est un événement qui a été organisé par deux institutions que je dirais phares ou à tout le moins très connues dans la francophonie au pays, c'est-à-dire la Cité, le Collège de la Cité et l'Université de l'Ontario français.
Et c'est un événement qui coïncide d'ailleurs, Simon, avec l'adoption récente, comme on sait, de la loi C-11 qui va mieux encadrer la diffusion en ligne des contenus culturels.
Alors, pourquoi avoir organisé cet événement-là? De quoi a-t-on discuté? Quelles conclusions a-t-on tiré de ces échanges qui sont déroulés? Alors, on va en discuter avec celle qui était l'animatrice de ce forum. Elle est la fondatrice et directrice d'une organisation qui s'appelle Tech for Good. Madame Caroline Isotier est avec nous au bout du fil. Madame Isotier, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Madame Isotier, dites-moi d'abord, pourquoi un forum sur l'avenir des contenus culturels numériques au Canada? C'était quoi le but de cet événement-là, au juste?
Alors, le but, c'était de parler des enjeux majeurs auxquels les industries culturelles sont confrontées au Canada, face à l'invasion, si on peut dire, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, des plateformes de contenu culturel numérique. J'ai nommé Spotify, YouTube, voilà, toutes ces plateformes qui ont en fait chamboulé le paysage audiovisuel canadien et qui finalement arrivent à exister depuis 15 ans sans aucune régulation. Et ce qui fait que, en fait, ce sont des algorithmes qui aujourd'hui décident de la diffusion de contenu culturel aux Canadiens, alors que dans le monde audiovisuel classique, celui dans lequel vous êtes, la radio, la télévision, il y a quand même une autorité de régulation qui s'appelle le CRTC, qui veille, par exemple, dans ses missions, à ce qu'il y ait un minimum de contenu canadien qui soit présenté aux Canadiens.
Qui sont les gens qui ont participé à cet événement-là, d'une part, et d'autre part, les panélistes invités étaient lesquels?
Alors, il y avait vraiment un magnifique panel franco-canadien. Il y avait Luc Perrault, qui est conseiller stratégique chez un des principaux diffuseurs audiovisuels canadiens, qui s'appelle Stingray, que certains de vos auditeurs doivent connaître. Il y avait Jean-Robert Bisaillon, qui a été un musicien et qui maintenant est un expert de ce qu'on appelle la découvrabilité des contenus en ligne. Donc, je pourrais vous en dire plus si vous voulez. C'est un nouveau terme qui a émergé depuis 10 ans à cause des plateformes numériques et du fait que, eh bien, maintenant, maintenant, ce sont des algorithmes qui mettent en avant des contenus culturels et non plus des personnes. Donc voilà, il y avait un avocat de Montréal également. Il y avait Pierre Trudel, qui est un grand expert franco-canadien du droit de la cyber. Du droit de tout ce qui est médias en ligne et en général de tout ce qui est activité en ligne. Voilà, il y avait Monique Simard qui a conseillé le gouvernement sur la nouvelle mouture de la loi C11, sur cette nouvelle loi C11. Enfin voilà, il y avait un panel impressionnant d'intervenants et il y avait une professeure de l'Université de l'Ontario français qui s'appelle Ella Zahar. Et il y avait aussi des musiciens canadiens autochtones, Mathieu McKenzie et un collaborateur, qui témoignait de la difficulté de faire découvrir les contenus autochtones sur les plateformes numériques aujourd'hui. Par exemple, ils nous ont dit, bah, vous savez qu'aujourd'hui, si je veux rentrer à une de mes musiques sur une plateforme numérique comme Spotify, la notion de musique autochtone, et encore moins musique autochtone canadienne, n'existe pas. Donc je ne peux même pas classifier mon contenu pour qu'il soit découvrable par une personne qui s'intéresse à la musique autochtone.
On voit que en matière de découvrabilité pour les artistes, pour les créateurs, pour les distributeurs, ça ne semble pas tout à fait évident, mais au chapitre de Monsieur, Madame, tout le monde, pour le consommateur, est-ce que tout le monde est au même niveau au pays en matière d'accès au contenu numérique? J'ai l'impression que si on va d'un endroit à l'autre à travers le pays, tout le monde ne loge pas à la même enseigne là, quand vient le temps d'aller sur Internet pour consommer des produits numériques. Il y a beaucoup d'inégalités, là, je me trompe pas en disant ça.
Non, bien sûr. Est-ce que vous voulez dire inégalité d'accès en général au numérique? Est-ce que c'est, vous entendez, en fait?
Ben, de façon générale, mais est-ce que, par exemple, francophones et anglophones sont situés sur un pied d'égalité? Est-ce que aînés et jeunes, par exemple, ont le même accès aux produits numériques? Les personnes racisées, les autochtones, vous en avez parlé tout à l'heure pour les créateurs, mais est-ce que les consommateurs eux-mêmes, parce que, je veux dire, c'est une industrie, ça fonctionne à deux. Tu sais, pour danser, il faut qu'il y ait deux personnes pour danser le tango, les créateurs, oui, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait des consommateurs. Et est-ce que tout le monde a le même accès à ces produits-là aussi? C'est encore difficile, même en 2023.
Oui, ah ben ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde autochtone, pour revenir sur cette population-là, c'est certain qu'ils n'ont pas le même accès au numérique que dans une grande ville comme Montréal ou Toronto. On a relativement, la loi se focalise plus, enfin le débat, c'est plus focalisé sur la mise à disposition, en fait, des contenus numériques. Et c'est moins focalisé sur l'accès par le grand public, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme je vous dis, un problème de déséquilibre entre les plateformes numériques souvent étrangères, hein, donc Spotify, YouTube, et qui décident quelque part toute seule de ce qu'elles diffusent aux Canadiens, et d'autre part, le monde de la radiodiffusion classique canadien, qui lui est soumis à des règles, et qui ces règles sont là pour protéger le contenu canadien et pour s'assurer que le Canada préserve quelque part toute sa culture, qu'elle soit minoritaire francophone, minoritaire autochtone ou majoritaire anglophone, mais en tout cas que le Canada décide de son avenir culturel et ne le subisse pas de la part de plateformes étrangères. Donc c'est vrai qu'on a relativement peu abordé le problème de l'accessibilité côté grand public. Ça, c'est un autre problème qui est lié à l'accès en général à Internet. Voilà.
À la large bande et tout ça.
À quel défi le Canada peut s'attendre au cours des prochaines années dans l'univers numérique? Et s'il y en a, bien entendu, quelles seraient nos forces si l'on compare le Canada, disons, aux autres pays du globe?
Alors là, c'est vrai que c'est une vaste question, et c'est vrai que en mettant en place cette loi, le Canada tente de s'équiper, en tout cas, pour ne pas être submergés par le raz-de-marée des contenus numériques venant d'ailleurs et décidés surtout par des sociétés privées qui ont peut-être une motivation principalement autour du profit et qui n'ont pas en tête de préserver la culture canadienne. Donc, en tout cas, on peut dire que le Canada tente de s'équiper pour répondre à ce raz-de-marée. On n'a pas énormément évoqué les autres lois ailleurs, mais je crois que ça émerge un petit peu partout ailleurs dans le monde. Les États se réveillent un petit peu face à cette... quelque part, cette invasion silencieuse culturelle qui a eu lieu via les plateformes numériques de streaming, de diffusion en continu. Mais on peut dire qu'en tout cas, côté francophone, la résistance s'organise. Je peux vous dire que les experts qui étaient là, ils sont prêts à défendre la culture francophone. Les autochtones, ils vont être accompagnés également par des organismes comme celui de Marie-Christine Morin qui était là, qui en fait essaie de les initier à la diffusion numérique. En fait, si vous voulez, le souci est certes l'accès du point de vue du public, mais il est surtout l'accès des artistes à la diffusion numérique, parce que si les artistes ne sont pas assez éduqués, n'ont pas une littératie numérique suffisamment développée, ils ne sont même pas en mesure d'essayer de diffuser leur contenu sur ces plateformes. Donc il y a toute une éducation, là aussi, comme partout ailleurs dans la société canadienne, une éducation en littératie numérique, c'est-à-dire en utilisation de l'outil numérique pour faire son métier, qui se met en route et que va tenter d'accompagner le CRTC. On va être dans la phase de consultation. Maintenant que cette loi a été ratifiée, on va être dans la phase de consultation pendant un peu plus d'un an, je crois. Et donc, pour essayer de mettre en place la gouvernance. En fait, le Canada va inventer une nouvelle gouvernance des contenus culturels à l'ère des plateformes numériques. Donc, Spotify, YouTube vont devoir répondre eux aussi à un minimum de contenus canadiens, autochtones, francophones, même s'ils n'auront pas ce qu'on appelle une licence, ce qu'on n'est plus dans le monde d'avant. Ils vont devoir quand même, on espère en tout cas, mais en tout cas c'est un véritable défi parce que on n'a pas parlé du détail de la découvrabilité, mais on rentre dans des critères techniques qui sont pas du tout dans les métiers existants aujourd'hui au CRTC, ni même dans les métiers des musiciens, donc on est obligé de former. Et peut-être que le CRTC va faire venir des experts extérieurs pour se faire accompagner, mais on va devoir rentrer dans des discussions techniques de tagging, de comment est-ce qu'on libelle différents contenus pour qu'ils soient découvrables et diffusables. Donc c'est vraiment un défi impressionnant, mais les experts qui étaient là étaient prêts à répondre à l'appel.
Et en conclusion, Madame Izotier, quel bilan l'on peut tirer de cet événement-là? Est-ce que le regard qu'on porte vers l'avenir, parce que c'était un forum sur l'avenir des contenus culturels numériques au Canada, oui. Est-ce que panique en la demeure? Est-ce oui. qu'il y a un regard d'optimisme? Quel bilan on trace de cet oui. événement-là?
Alors, je pense que le bilan était très positif. Les personnes qui ont assisté avaient l'air d'apprécier énormément la qualité des discussions. Je pense qu'on a un peu enlevé des idées préconçues. Par exemple, il y a eu un lobbying intense de la part des plateformes numériques pour dire que le CRTC allait maintenant tenter de réguler chaque YouTuber ou YouTubeuse qui voulait s'exprimer. Ce n'est évidemment pas du tout l'objet de la loi. L'objet de la loi, c'est de réguler les plateformes, les entreprises, pour les mettre au même niveau que les entreprises de radiodiffusion canadiennes. Donc, je pense qu'il y avait quand même pas mal d'espoir, mais également pas mal d'humilité devant la difficulté de la tâche. Et moi, je suis restée en contact avec les différents panélistes pour suivre la suite des événements, parce que, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc maintenant, ça va être une question de détails d'implémentation très complexe qu'il va falloir suivre pour s'assurer que le Canada préserve sa culture tout en s'ouvrant évidemment au monde, mais ne se fasse pas envahir par une culture notamment américaine qui est déjà, ma foi, très dominante au Canada.
En clair, à défaut d'avoir un gros bateau, au moins qu'on ait des canots de sauvetage pour être capable de se sortir de ce raz-de-marée oui! qui nous frappe actuellement.
C'est ça, tout à fait. Ouais.
Madame Caroline Isotier, fondatrice et directrice de l'organisation Tech for Good, elle était l'animatrice de ce forum là qui a eu lieu il y a quelques semaines du côté de Toronto, forum sur l'avenir des contenus culturels numériques au Canada. Madame Isotier, merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Cette émission peut contenir des infos.
On a discuté un peu plus tôt dans l'émission de sécurité nautique.
Absolument, oui.
Avec M. Roch Anctil de Transport Canada qui fait de la sensibilisation.
Il nous a donné de très bons conseils pour avoir une saison réussie.
Réussie sur l'eau, évidemment. On a quelquefois l'impression, hein, compte tenu de tout le battage médiatique qui a été fait autour de cet accident-là, cette tragédie-là, que le naufrage du Titanic, ça a été l'incident maritime, disons, le plus tragique de l'histoire. Bon.
Oui.
S'entend que, entre, on dit qu'il y a entre 1490 et 1520 personnes qui sont décédées ou qui ont été portées disparues dans la tragédie. C'est sûr qu'en soi, c'est un accident qui est assez gravissime.
Oui.
S'entend, là. Mais il y a d'autres tragédies maritimes qui ont été, dans certains cas, beaucoup plus dévastatrices. Et l'idée, là, aujourd'hui, c'est pas de faire une compétition, mais juste qu'on prenne connaissance de d'autres événements qui ont été aussi tragiques. Et ça a un lien avec ce que je disais tantôt par rapport à la sécurité nautique ou la sécurité en sur l'eau, là.
Oui.
D'avoir un gilet de sauvetage, par
c'est
exemple.
Ça.
De
Exactement.
Savoir quand vous êtes sur un traversier où sont situés, par exemple, les points de rassemblement, les trucs du genre. Il y a même dans certains cas des accidents qui sont survenus au Canada, comme on va vous le dire tantôt.
Mais tu sais, comme le disait tantôt M. Anctil, là, tu sais, quand tu tombes dans l'eau, puis l'eau est froide, là.
Oui.
Ça revient un peu à ça, là.
Exactement.
Oui.
En 1987, c'est quand même assez récent.
Là, 1987, dans, c'est pas si loin que ça.
Dans l'histoire, dans l'histoire contemporaine. Le Doña Paz, on l'a surnommé, écoute ça, le Titanic asiatique.
OK.
Bon, on comprend que c'est pas tout à fait étranger avec le fait qu'il ait coulé. Là.
Ouais.
Alors lui, là, en 1987, son accident a coûté la vie entre, vous ben assis, là, entre 4375 et 4390 personnes.
Aïe, aïe.
C'est du monde.
Ça. Méchante tragédie, ça, là.
Oui. C'était un traversier.
Okay.
Et puis, il était surchargé de passagers. Et au moment de l'accident, il est entré en collision avec un pétrolier.
Oh!
8800 barils de pétrole. L'incendie qui en a résulté a coûté la vie à des milliers de passagers et des membres d'équipage. D'autres sont disparus, ont jamais été retrouvés. C'est pour ça que des fois, on a de la difficulté un petit peu à faire un bilan très exact de ce genre d'affaires-là. Parce que il y a des gens, à un moment donné, puis tu sais, dans le cas du Titanic, à l'époque, savoir, il y a peut-être des gens qui étaient embarqués dans le bateau, puis on savait pas, des affaires comme ça, ou encore des gens qui étaient pas nécessairement très, très riches, puis on gardait pas la trace d'eux autres, ils étaient pas fichés.
C'est pour ça qu'on estime toujours un nombre.
Exact.
Ouais.
Autre accident maritime qui a coûté la vie à beaucoup plus de gens que la tragédie du Titanic, c'est l'explosion du Mont Blanc en 1917 dans le port d'Halifax.
Ah oui?
Ouais, en Nouvelle-Écosse.
OK.
Le plus ironique là-dedans, si le mot est bien choisi, c'est que le Mont-Blanc, quand on le regardait comme ça, ce navire français, ancré à l'embouchure ou pas très loin là, du port d'Halifax, ça avait l'air d'un bateau très, très quelconque. Mais l'affaire, c'est que c'était loin d'être le cas. C'était bourré d'explosifs. Il y avait des produits chimiques là-dedans, du carburant hautement inflammable. Et le vaisseau en question est entré en collision avec un autre navire le 6 décembre 1917. Résultat, jusqu'à la bombe d'Hiroshima en 1945, là, à partir de 1917, pendant toute cette trentaine d'années-là, à peu près, ça a été l'explosion dans l'histoire de l'humanité qui était la plus grosse, pour te dire. Là.
Wow.
Le bruit de la détonation, c'était tellement puissant qu'on l'a entendu jusqu'à 300 kilomètres de là, ou à peu près, jusqu'au Cap-Breton.
Ben oui, c'est ça.
Ouais, on a entendu justement l'explosion de ce navire-là.
Wow.
Et les estimations conservatrices parlent d'à peu près 2000 victimes, mais on pense que les chiffres sont pas mal plus gros que ça, parce que, tu sais, à l'époque, encore là, c'était du pauvre monde, on faisait pas nécessairement des décomptes. Et il y a une grande partie de la ville d'Halifax qui avait été détruite à cette époque-là, en 1917. 9 000 blessés, 25 000 personnes avaient été jetées à la rue à cause de l'explosion. 2002, le naufrage du Djoula, certains le surnomment quelquefois le Titanic sénégalais. Tu vois que Titanic a marqué les esprits. Alors lui, son accident maritime a coûté la vie à plus de 2000 personnes. Un navire avec un équipage de 44 personnes qui assurait la liaison maritime entre la capitale sénégalaise et une région naturelle de Casamance. Et ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est qu'il y a eu 2000 personnes qui ont trouvé la mort là-dedans, mais sais-tu combien qui pouvaient en loger ce bateau-là?
Combien?
536.
Ça
fait qu'il aurait dû, en principe, y avoir que 530 quelques personnes.
C'est ça.
Probablement. On est dans les grandes suppositions, mais peut-être que si, effectivement, on avait respecté le nombre de passagers, peut-être que tout le monde aurait eu un gilet de sauvetage ou aurait trouvé un canot pour se sauver, mais malheureusement, il y a 65 personnes qui ont survécu. C'est tout. Et je terminerai avec celui qui a été peut-être pas tragique, disons humainement parlant, à mesure où il n'y a pas eu tant que ça de décès, je sais même pas s'il y en a eu, mais que au chapitre financier et environnementaux, l'Exxon Valdez, en 1989, c'est la tragédie maritime la plus coûteuse de l'histoire, la marée noire qui a été causée, c'est-à-dire par l'échouement de ce navire sur un récif, a coûté des milliards de dollars en dommages environnementaux, évidemment, pour nettoyer tout ça, dommages économiques. Et on dit que même plus de trois décennies après la tragédie, il y a encore des traces qui subsistent au large de l'Alaska, ou en fait sur les côtes, il y a encore des places où on...
Tu te souviens-tu des images télé de cette affaire-là?
C'était pas beau, là.
Ah! De voir les animaux, là.
Les oiseaux marins, là, qui étaient couverts de...
Couverts
de pétrole.
Ah!
Non, c'était pas...
Moi, je vais t'amener...
Dans quelque chose de plus réjouissant.
Tellement loin de là.
On aimerait ça de temps en temps ou tout le temps vous donner des...
Mais regarde. C'est l'histoire, ça, là.
C'est l'histoire.
On vient de parler d'histoire.
Exactement.
Si je te dis une maison carboneutre, et non, pas comme tu m'as dit tantôt,
c'est pas
un joueur du Canadien de Montréal.
C'est pas Guy Carboneutre.
Non, c'est pas ça. Guy Carboneutre. Ça dit-tu quelque chose, une maison carboneutre?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment? OK. Une maison carboneutre zéro net, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la capacité d'une habitation à produire autant d'énergie qu'elle va en consommer. Peut-être même en générer un petit peu plus qu'on peut acheminer ou vendre. Au réseau électrique.
OK.
Oui. À ce jour, mon cher ami, il y a plus de 1250 habitations qui sont étiquetées carboneutres par le programme d'étiquetage des habitations au Canada de l'Association canadienne des constructeurs d'habitations. Juste pour te donner une idée, en 2020, il y en avait 450. On est rendu à 1250. C'est quand même pas si pire.
Belle croissance, quand même.
C'est une belle croissance. Cette liste englobe des maisons unifamiliales, des jumelées, ainsi que des immeubles résidentiels à logements multiples.
Mm-hmm.
De même que certaines habitations plus anciennes qui ont été modernisées. Les maisons qui portent cette étiquette sont jusqu'à 80% plus efficaces sur le plan énergétique qu'une maison neuve ordinaire. Et ce, grâce à une isolation supplémentaire.
Bien sûr.
Des fenêtres à haut rendement. C'est pas des fenêtres simples.
C'est
des fenêtres triples.
Des thermomètres, et plus, comme on dit.
Oui. Et une étanchéité accrue qui contribue tout à réduire les besoins en matière de chauffage et de climatisation parce que il est là le problème.
L'infiltration d'air qui rentre
c'est
dans la maison.
C'est l'infiltration d'air, ce qui fait que on doit, générer plus d'électricité ou générer plus de chaleur.
Comme disait ma mère, fermer la porte, on chauffe
pas le dehors.
On chauffe pas le dehors.
Effectivement. Quelles sont quelques-unes des composantes essentielles d'une habitation carboneutre? Je vous les donne. La première, c'est l'isolation et l'étanchéité.
Bien sûr.
C'est le tout premier critère qui réside dans la qualité d'une maison carboneutre. La deuxième, l'étape suivante consiste à installer des systèmes de production d'énergie renouvelable.
Ah oui, OK. Compris.
Afin de générer de l'énergie qui va pouvoir alimenter l'habitation en fonction de sa consommation annuelle, bien entendu. Voilà, on parle...
Panneaux solaires.
Des panneaux solaires, effectivement. des choses comme ça. Les électroménagers.
Ah, ben oui.
Ça n'engruge de l'électricité, ça. Réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse. Hein, c'est nos petits robots personnels. Ben, peut-être que ces robots-là devraient être un petit peu moins énergivores. Donc, quand on achète, on regarde l'étiquette. Énergie.
Énergie Star.
Énergie Star, oui, voilà. Okay. L'éclairage.
Oui.
Tu sais, une ampoule de 100 watts, ça prend 100 watts.
Oui.
Tu vas avoir un Dell à 8 watts qui va te créer le 100 même... watts de lumière.
C'est ça, exactement.
Alors, remplacez vos ampoules, mettez du Dell. C'est évidemment la grande tendance en ce moment, là, les gens comme... Et l'éclairage, honnêtement, l'éclairage Dell était très blanc. Tu te souviens, là, oui. Les premiers Dell, là, c'était trop blanc.
Oui, c'était...
Mais là, on a différentes variantes dans le blanc.
Oui, absolument.
Qui ont sorti.
Le blanc un peu bleu.
C'est ça.
Le blanc un peu plus crème.
Jaune.
Jaune, oui, absolument,
c'est ça.
Qui reproduit un peu la lumière.
C'est un peu moins pire. Ouais, ouais. En dernier, ben, c'est les systèmes de chauffage et de climatisation.
Hein? Ah, ben oui.
On s'entend. Thermopompe, on parle de thermopompe, la géothermie.
J'aimerais tellement ça être capable de m'installer.
Oui,
ça.
moi aussi.
C'est pas donné, par exemple, hein?
Ben non, mais parce qu'on va chercher le froid et le chaud du sol.
C'est ça. Puis premièrement, c'est pas donné, c'est non, pas nécessairement. Ça prend certaines conditions pour être capable d'installer
oui.
ça. Là,
tu sais. Oh oui, effectivement.
Ouais.
Si ça vous tente d'avoir ou en tout cas de vous informer un petit peu plus sur les maisons carboneutres, là, allez-y. Faites une petite recherche sur Google et vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessus. Et il existe plein de subventions au niveau fédéral, au niveau provincial, puis souvent au niveau municipal.
Absolument, mais oui, ouais. Je sais qu'au même dans le municipal,
vous allez vous ramasser que vous allez faire des belles rénovations, des bonnes rénovations à votre maison.
Exactement.
Votre maison va prendre de la valeur et en plus, ça va vous coûter un petit peu moins cher.
C'est en bout de parcours que nous sommes arrivés pour cette émission-ci, mon cher ami. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. J'espère
oui,
que vous l'avez
beaucoup.
Apprécié. Vous voulez nous suivre la page Facebook, ne l'oubliez
absolument.
Pas.
Absolument. Vous
oui,
pouvez toujours nous écrire aussi. Hein, si ça
oui,
vous tente,
là,
ça vous dit, vous pouvez le faire à travers Facebook, là, mais vous pouvez le faire aussi par la vieille méthode là, qui appelait le courrier quelque chose.
Oui, courrier électronique. Là,
ah, ouais, quelque chose de même. Là, pcdi@radiorfa.com. N'hésitez pas, envoyez-nous vos commentaires, vos idées de sujets, si vous avez des idées de sujets. Voyez-nous ça, on va tout regarder ça.
Merci François.
Merci Simon, à la semaine prochaine.
Merci les gens, salut.